La disparition de Maryse Condé a ému le monde littéraire cette semaine. Nous lui rendions hommage tout à l'heure dans la librairie francophone et nous allons continuer pendant une petite heure avec un entretien de Laure Adler réalisé en 2018. Laure qui est avec nous, bonjour Laure Adler.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous en direct. Avant d'écouter cet intense moment de radio, quel souvenir gardez-vous de cette rencontre et de cet entretien avec Maryse Condé?
Écoutez, ça avait été compliqué de la voir parce que elle avait envie de parler, mais elle était extrêmement fatiguée.
Oui.
Cela faisait longtemps que j'avais une longue conversation avec cette femme que j'admirais depuis extrêmement longtemps et qui a beaucoup compté dans ma vie, à la fois comme professeur, comme écrivaine, mais aussi comme personne qui disait des choses profondes sur le plan philosophique et existentiel. Finalement, elle a cédé plus qu'accepté. Je l'ai vraiment supplié d'avoir cet entretien. Son corps était prisonnier de cette atroce maladie, puisqu'elle a eu un AVC.
Oui.
Sa tête marchait à toute vitesse. Mmh. Et finalement, je me souviendrai toujours du sourire qu'elle a eu quand je suis arrivée dans cette maison située près de Gordes, mais complètement paumée au milieu d'un paysage sublime. Elle m'a accueillie dans tous les sens du terme par son sourire. Elle m'a prise dans ses bras et là, on a commencé à parler. Vous le verrez, vous l'entendrez, elle a une parole quelquefois un peu, entre guillemets, ralentie. Mais ce qu'elle dit, j'ai fait cette émission avec Lilian Hanôme, on avait les larmes dans les yeux en l'écoutant. Et on ne savait pas que ça serait la dernière.
Exactement. Déjà en 2012, elle était très atteinte par la maladie. On l'a entendu tout à l'heure dans la librairie francophone. Et c'est vrai que c'était une femme lumineuse, incroyable. Tout ce que vous avez dit, Laure, c'est exactement Maryse Condé. Merci beaucoup pour cet hommage. Maryse Condé a su aller vers l'universel. Elle a porté une créolité ouverte sur le monde entier. Merci, Laure. On va écouter Votre Heure Bleue, donc diffusée le 14 décembre 2018 avec Maryse Condé. Bon week-end à vous, Laure. À bientôt.
Merci.
L'heure bleue sur France Inter.
Paraphrasant Jean-Jacques Rousseau dans Les Confessions, je déclare aujourd'hui que je veux montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature, et cette femme sera moi. D'une certaine manière, j'ai toujours éprouvé de la passion pour la vérité, ce qui, sur le plan privé comme public, m'a souvent desservi. Ce soir, émission spéciale avec Maryse Condé à l'occasion de son prix Nobel alternatif. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec Arthur H, qui dans l'or noir célèbre la poésie des Antilles.
Amoureux, je ne suis point un homme qui rit au vieux soleil maquillé des dimanches de Pâques. Je porte ma ruine sur le dos, comme un écolier porte entre les lignes la croix des devoirs difficiles. Je tourne la page en dessinant dans l'air une croix de cendre pour saluer le maître des carrefours. J'irai par quatre chemins confesser l'indigo en poudre fine de ta petite culotte qui compte bien plus d'étoiles que les drapeaux des États fédéraux. Amoureux, je ne suis qu'un homme simple, atteint d'une complication au cœur. Un homme simple, souffrant d'un gigantisme au niveau du myocarde, me donnant un cœur trop grand pour ton âge. Sois mon beau malheur comme une calebasse d'eau de feuilles de basilic et de verveine frottée sur ton destin, des désormais en phase avec toutes ces étoiles. Depuis les plus lointaines jusqu'à celles qui se meurent interminablement sur ta lampe à bec par lampée d'étincelles. Chanson douce de me donner le bain en ton âme, navire à voile, barque de mousse, et ton corps d'ail farci de tous les sortilèges. Encore vivrai-je de temps en temps sous la conjonction planétaire.
Alors Maryse, merci de nous recevoir chez vous.
Merci d'être venue, c'est gentil.
Ben, c'est normal, on est très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Et puis au moment où on fait cet enregistrement, vous n'êtes pas encore partie pour Stockholm. Je ne sais pas si vous vous préparez à ce voyage, et je ne sais pas ce que revêt à vos yeux la remise de ce prix, mais pour nous toutes et pour nous tous, ce prix est très important à de nombreux titres, mais je voudrais commencer par la lumière.
Oui.
Nous sommes dans votre salon, dans une petite maison dans le sud de la France, perdue dans la nature. C'est l'heure bleue, d'une certaine façon, parce que il fait très beau.
Ouais.
Est-ce que vous regardez la lumière dans cette maison et pourquoi vous êtes-vous décidé à vivre dans le sud ?
Malheureusement, alors, je suis malade. J'ai ce qu'on appelle des pertes d'équilibre. Il faut que je marche d'un fauteuil roulant. C'est plus facile à la campagne qu'à Paris. Vous savez qu'à Paris, rien n'est fait pour un handicapé. Ni le métro, ni les autobus, ni même les trottoirs. Ici, on peut descendre dans son jardin ou rester assis gentiment sur sa terrasse et regarder les oliviers.
Depuis que vous êtes toute petite, vous avez été très sensible à la nature.
La nature que j'aime, que je connais bien, est différente de celle qui est par ici. C'est la mer, la montagne, le volcan, une sorte de exubérance qui n'a pas ici. Ici, tout est harmonieux et secret. La mer parle fort, les rivières parlent fort, le vent parle fort, et voilà, nous avons des cyclones qui gueulent, carrément, c'est le cas de dire. Il n'y a pas de discrétion ici. Tout est bouillant. Tout est chaleureux et chaud.
Alors, en début d'émission, j'ai lu un très court extrait d'un des livres parus en 2012 qui s'intitule « La vie sans phare ».
Oui.
C'est une autobiographie, mais c'est une autobiographie sans complaisance aucune. Et oui. Dans ce texte, vous décrivez votre petite enfance, votre enfance, et vous le faites avec une certaine violence pour stigmatiser finalement l'éducation un peu aristocratique et j'oserais peut-être même dire raciste que vous avez subi ou que vous avez dans laquelle vous avez baigné Maryse Condé.
Ouais.
Vous iriez jusqu'à dire raciste, vos parents vous ont éduqué en étant à part.
Je ne dirais pas raciste, mais certainement ils se croyaient du milieu de la race. Maintenant on dit plus race. De ce fait, ils avaient une sorte de mépris pour le reste du monde. Donc, j'ai grandi là-dedans. Au début, ça m'était égal. J'approuvais, puis j'ai compris que c'était un mythe. Et j'ai réagi peut-être un peu trop violemment. Maintenant, je pense que j'aurais pu être plus mesuré, tolérant, compréhensive. Ma mère était la fille d'une femme cuisinière qui se louait chez des blancs Mon père savait pas qui était son père. Il a dit, il veillait comme pupille de la nation. Donc finalement, il pensait trop à leurs origines et il comparait tout le temps à ce qu'ils étaient devenus. Mais au début, je les condamnais et je trouvais qu'ils avaient pas de cœur. Mais après, j'ai compris qu'ils étaient simplement contents d'être ce qu'ils étaient devenus. C'était pas des gens exemplaires comme on voudrait que ses parents le soient. C'était des êtres humains avec leurs faiblesses et leur petitesse.
Pourquoi vos parents vous ont proposé, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé de partir à la métropole? C'était dans le but de faire des études?
Il n'y avait pas d'université alors. Une fois le bac obtenu, il fallait partir en métropole, comme on disait. Mais la différence, c'est que mes notes au bac étaient tellement brillantes que j'ai été choisie parmi les rangs de pain auquel ça arrivait pour aller en Hippocagne. Donc ce choix me coupait doublement de Lille.
Mais vous étiez plutôt contente d'arriver à Paris en tant que jeune étudiante.
J'avais peur quand même. J'avais toujours vécu avec mes parents, avec ma famille, protégée. Et là, subitement, il fallait se débrouiller tout seul. C'était un peu dur, un peu effrayant.
Mais votre vie est dure quand on la regarde rétrospectivement.
Je dirais que ma vie est très, très dure jusqu'au moment où je rencontre mon deuxième mari, Richard. Alors, elle a changé. Elle n'est pas devenue bêtement douce, mais elle est devenue enrichissante et différente.
Alors, vous êtes d'origine guadeloupéenne. Vous célébrez dans de nombreux livres la beauté de la nature. Vous restituez la complication des rapports sociaux, des rapports ethniques. Vous avez différents registres. Vous écrivez aussi du théâtre, de la littérature pour enfants. Mmh. Mais les deux tiers de votre vie, Marie Scondé, vont être consacrés à vivre en Afrique. L'Afrique va être très importante dans votre parcours, et notamment la Guinée, et puis ensuite la Côte d'Ivoire, et Haïti aussi. Et d'ailleurs, de ces pays-là, et sur ces pays-là, vous allez aussi en écrire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'Afrique est si importante dans votre parcours?
Oui. J'ai, après avoir découvert les rapports qui nous unissaient à l'Afrique, après avoir compris que les Antillais étaient en fait des descendants d'Africains séparés de leur continent par l'esclavage, j'ai voulu revenir chez moi. Donc, pendant quelques années, j'ai vécu en Afrique, mais j'ai très vite compris que je vivais un peu sur un mythe de facilité, de fraternité, et que les choses étaient plus complexes que ça. Donc, je suis allé ailleurs, d'abord en France, puis aux États-Unis, donc ma vie, un tiers l'Afrique, un tiers la France et le reste des États-Unis.
Vous êtes une éternelle nomade et je crois que ce nomadisme a pu féconder votre œuvre littéraire, Marie Scondé. Mais vous avez commencé à écrire, en tout cas à publier, assez tardivement. Est-ce qu'il y a eu auparavant une vocation littéraire qui s'était exprimée?
Oui, mais je n'avais pas du tout confiance en moi. Je doutais, Je crois que je me suis décidée à devenir un écrivain quand j'avais 40 ans et quand je ne pouvais plus lutter contre ces vocations. Mais au départ, je pensais que c'est arrogant d'imposer ses idées, ses pensées aux autres. Il me semblait que Marquise Condé n'avait rien de spécial à offrir. Sinon, c'était rien.
Et pourtant, dans l'exergue de votre livre « La vie sans phare », vous prenez une phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « Vivre ou écrire, il faut choisir ». À 42 ans, vous avez choisi de devenir écrivain, Marquise Condé.
Oui, mais je pense que j'ai voulu dire « Vivre ». Pour moi, c'était tellement compliqué, tellement douloureux. J'ai écrit après, quand j'ai pu penser à autre chose qu'à nourrir mes enfants, habiller mes enfants, les envoyer à l'école. C'est un choix simple et humain que j'ai fait là.
Oui, parce que la vie matérielle était difficile, a été très difficile pour élever vos enfants. Il fallait continuer à travailler, il y avait des horaires qui étaient très lourds.
Oui.
Et donc, il n'y avait pas d'espace pour votre imaginaire.
J'ai toujours beaucoup pensé, rêvé, imaginé. Mais il me semblait que ça n'avait aucun intérêt, aucune valeur, et je n'osais pas imposer mes idées et mes pensées aux autres. Mais après, à l'âge d'environ 40 ans, j'ai senti que c'était une chose dont je ne pouvais plus me passer. Donc je me suis décidé, malgré tout, à suivre ce qui était une vocation.
Alors, je ne sais pas pourquoi les femmes continuent, même quand elles vont recevoir le prix Nobel, à s'inférioriser en permanence. Mais en tout cas, ce que vous ne dites pas, Marquise Condé, c'est que dans ce nomadisme entre la France, l'Afrique, puis les États-Unis, vous avez eu une carrière universitaire. Vous avez été un grand professeur et vous avez fait des travaux universitaires. Et dans ces travaux universitaires, vous avez exprimé votre amour pour Aimé Césaire. D'ailleurs, je crois que vous avez fait des travaux universitaires sur Aimé Césaire. Je vous propose de l'écouter à propos de la langue créole. On va écouter un extrait de « Cahier d'un retour au pays natal » lu par Jean Negroni. Et « Cahier d'un retour au pays natal », c'est très important pour vous et pour nous tous.
Quand j'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers, il paraît qu'il y a des Martiniquais et très assimilé, qui a été tout à fait vexé, tout à fait offusqué. Mais c'est ça le fait premier. Et il ne faut pas en avoir honte. C'est ça la vérité. Si quelqu'un doit en avoir honte, ce seront ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon. Mais comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte qu'il s'agit d'une société et coloniale et raciste? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée et avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui a été restituée par Dégosier selon les règles implacables de la phonétique africaine et agglutinée entre eux selon les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident. Autrement dit, si on ne veut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora.
Magique, avec une lèche de ciel sur un quignon de terre. Vous, bête qui sifflez sur le visage de cette morte. Vous, libre fougère parmi les roches assassines, à l'extrême de l'île parmi les conques trop vastes pour leur destin. Lorsque midi colle ses mauvais timbres sur les plis tempétueux de la louve, hors cadre de science nulle, et la bouche aux parois du nid, suffète des îles englouties, comme un sou, avec une lèche de ciel sur un quignon de terre. Prophète des îles oubliées, comme un sou, sans sommeil, sans veille, sans doigt, sans palancre. Quand la tornade passe, rongeur du pain des cases. Vous, bête, qui sifflez sur le visage de cette morte, la belle once de la luxure et la coquille operculée, molle glissement des grains de l'été que nous fûmes, belles chairs à transpercer du trident des aras. Lorsque les étoiles chancelières de Saint-Branche trèflent au ciel, comme des gouttes de lait chu, réajustent un dieu noir, mal né de son tonnerre.
Alors, comment Aimé Césaire a pu construire, enrichir votre rapport au monde et votre rapport à la langue?
C'est pas tellement Aimé Césaire. Bien que j'ai pour lui beaucoup d'admiration et une profonde tendresse, on aime les écrivains. Garcia Marquez a dit, on aime les gens qui écrivent, qui sortent de l'ordinaire, qui ont le courage d'offrir leurs pensées et leurs rêves aux autres. Je dirais que c'est surtout Frantz Fanon qui m'a changé, qui m'a permis de devenir moi-même, plus que Aimé Césaire. Il y avait en Aimé Césaire une part d'acceptation, de revendication de l'Occident que je n'ai jamais partagé avec lui. Je dirais que Frantz Fanon, qui a toujours refusé, qui a toujours dit non et proposé une libération profonde de l'être, a été davantage mon maître.
Et aujourd'hui, au moment où les études sur le postcolonialisme se multiplient un peu en France, pas assez, contrairement aux États-Unis,
oui,
mais au moment où une conscience des conséquences du postcolonialisme commencent à s'ouvrir comme un espace intellectuel majeur de notre prise de conscience européenne, au moment où la polémique ne fait que commencer sur la restitution des œuvres d'art pillées par les conquêtes coloniales et qui sont actuellement dans les musées en France et où les pays demandent qu'ils regagnent leur propre territoire. Que pensez-vous de cette prise de conscience, vous, aujourd'hui, Marie Scondé ?
N'oubliez pas que je suis antillaise. Le pays d'où je viens, la Guadeloupe, n'a rien créé qui aille dans un musée. Ce que nous recherchons, surtout, par-dessus tout, c'est dire au monde que nous sommes différents. Que malgré tout, malgré notre manque d'importance et de poids dans le monde, nous existons d'une façon originale et profonde. Donc, je crois que c'est une manière de montrer qu'en dépit d'accusation, en dépit d'assimilation, nous sommes des êtres différents et édifiés. Une civilisation, une culture différente et belle aussi.
La différence peut être synonyme de positivité et d'éloge de la beauté du monde. Et je pense notamment à Édouard Glissant, avec sa pensée du tout monde. Je vous propose de l'écouter.
Je suis né dans une île et on dit toujours que l'insulaire, il est isolé, connaît pas le monde, c'est tout le contraire. Pendant la guerre, nous étions complètement séparés du monde par la flotte américaine, parce qu'il y a le régime vichyste occupait la Martinique, et nous étions complètement séparés. Moi, j'avais, je sais pas quoi, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais nous réveillons le monde avec une force terrible. Et je me souviens, Birakem, toutes les batailles, on a coulé le Gravenspiebe, un bateau allemand, et les Français ont tenu à tel endroit, les Anglais ont battu les Allemands à tel endroit, la mobilisation des peuples colonisés. On vivait tout ça, complètement isolé. Et c'est cet isolement-là qui nous a fait connaître le monde. Et il n'aurait pas existé que nous devions continuer à fréquenter le monde d'une manière tellement banale et quotidiennement absurde que ça n'aurait pas valu le coup.
Alors, Édouard Glissant pensait que le fait d'être né dans une île et de penser l'île à l'intérieur du système horizontal du monde pouvait être quelque chose de positif. Vous avez dit tout à l'heure, Maryse Condé, que, issu des Antilles, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas produit, en tant que peuple, des choses matérielles. Mais en même temps, il y a la beauté de cette nature que vous célébrez dans votre littérature. Il y a une forme de civilisation orale que vous nous restituez dans vos livres, d'ailleurs, dans certains de vos livres, Maryse. Il y a les saveurs, il y a les odeurs, il y a les épices. Il y a la sociabilité, il y a la musique, il y a tout ça quand même.
Oui, mais il n'y a pas de grand peintre, il n'y a pas de grand sculpteur. Nous avons réussi ailleurs. On a réussi peut-être dans des domaines différents. La musique, peut-être la poésie, la littérature en général, mais la beauté que nous avons comme édifiée est ailleurs.
Elle est où alors? Dans les esprits, dans les têtes, dans
oui,
les corps?
Un peu dans les corps, les têtes, la cuisine, les sons, les odeurs. Elle est plus difficile à cerner. Nous ne sommes pas un peuple qui, dont les valeurs soient si évidentes et si faciles à trouver. Il faut les chercher. Nous-mêmes, nous les cherchons et des fois, nous ne les trouvons pas.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez un des choix de Maryse Condé, Nino Ferrer, Le Sud.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été, y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million.
été.
France Inter rend hommage à Maryse Condé disparue cette semaine avec la diffusion de L'Heure Bleue du 14 décembre 2018 et avec Laura Adler.
Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre.
Alors voilà, il se trouve que la personne qui va recevoir le prix Nobel alternatif à Stockholm et qui le reçoit aujourd'hui, parce que nous enregistrons une semaine avant, mais le jour où l'émission va être diffusée, ça sera le jour où vous serez en train de prononcer votre discours, Maryse.
Ouais.
Eh bien, je me suis aperçue que tous vos livres sont comme des mélodies. Certaines, plus amples, deviennent des symphonies. D'autres sont des solos. Mais en tout cas, la musique intervient tout le temps. Vos choix musicaux, Nino Ferrer, c'est dans La vie sans phare. Dans le dernier livre qui sort, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana, il y a une allusion à un titre d'une chanson d'Alain Souchon.
Ouais.
Est-ce que la littérature, pour vous, peut s'entendre comme une sorte de mélopée ?
Il y a deux choses. D'abord, les mots sont une musique. Une phrase est un élément de musique. Donc, il y a c'est pas seulement le sens des mots qui compte, leur son, l'harmonie qu'ils portent et qu'il est possible d'écouter, d'entendre. Deuxièmement, quand je travaille un livre, j'ai besoin de musique. Il faut de l'opéra, il faut de la musique ancienne, il faut du jazz, mais il faut toujours un accompagnement. La musique rend l'esprit moins sec. Il ouvre l'esprit, il vous permet d'écouter, de comprendre ce que vous avez envie de dire. Les mots sont le reflet de sentiments et de sensations que la musique vous aide à bien être. Je n'imagine pas que je puisse écrire sans musique. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Le son des mots, musique des mots, et le son de la musique qui vous permet de trouver les mots dont vous avez besoin.
Alors, oui. À l'intérieur de votre œuvre, Maryse Condé, il y a aussi la dimension patrimoniale. Il y a la dimension généalogique, il y a la dimension du passé. Je pense notamment à ses goûts, à cette grande construction romanesque pour pouvoir restituer cette histoire ô combien méconnue de notre récit. Comment et pourquoi la littérature a été pour vous la voie royale pour exprimer cette dimension épique du passé ?
J'avais peut-être 16 ans quand pour la première fois, j'ai appris que mes ancêtres étaient des Africains. Mes parents ne m'avaient jamais parlé du passé. Après cette découverte, j'ai eu une sorte de dette pour l'Afrique que j'avais ignorée, méconnue pendant si longtemps. Donc, ces goûts et l'expression de mon regret, de ma culpabilité envers ce qui réduit la pierre de touche de ma culture, l'Afrique. Maintenant, j'ai un peu changé. Je ne sais pas si aujourd'hui je réécrirai un livre comme Ségou, mais il était nécessaire que je débute toute mon œuvre par un retour à ce qui duette, à ce qui m'appelle en fait donner naissance sans que je le sache. L'Afrique qui est en moi, comme une charde dans la blessure, selon les termes de Jacques Roumet, le poète haïtien.
Je vous propose d'écouter un film qu'on a toutes vu et tous vu, surtout à la fin de l'adolescence, et qui nous a bien fait pleurer, et qui a été très important, je crois, pour vous, puisqu'il a déclenché aussi un nouveau texte à l'intérieur de votre parcours d'écrivain, Marie Scondé. C'est un extrait des Hauts de Hurlevent de William Wyler.
Il y aura tant de terre, tant de pierres, entre toi et moi. Tu ne te rappelleras même plus que tu m'as tué. Où es-toi, Edgar? Vous m'avez brisé le cœur.
Tu dire que je t'ai tué. Comment peux-tu penser que je t'oublierai? Ne vois-tu pas quel calvaire je vais gravir tandis que tu reposeras en paix?
Jamais, Esclif. Jamais je ne connaîtrai la paix. Tant que tu ne seras pas couché à côté de moi.
Alors, vous avez voulu recommencer les Hauts de Hurlevent, en fait.
Je crois que sans Émilie Brontë, je ne serais jamais devenue un écrivain. Je crois qu'elle a éveillé en moi des sentiments que personne, aucun livre, n'avait jamais essayé. Éveiller. Une amie de ma mère, pour... mais 10 ans ou 12 ans, m'a offert le livre de Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent, traduction française de Roselyne Heist. Sans l'émotion, le bouleversement que ce livre a créé en moi, je pense que je n'aurais jamais osé écrire. Mais quand j'ai été un écrivain adulte, reconnu.
Ça n'a pas été sans mal hein, de devenir un écrivain reconnu, finalement.
Non, ça a été très long et très dur.
Et vous n'avez jamais craqué, vous avez toujours continué à écrire.
Ben, heureusement, ma vie personnelle était assez riche pour me donner la force, la foi de continuer. Mais ça a été, comme vous dites, très dur. Mais je crois que sans mon admiration pour Émilie Brontë, je ne serais pas arrivé. Et quand je suis devenu écrivain, j'ai produit La Migration des Cœurs, qui est mon adaptation, mon cannibalisme, ma cannibalisation de ce livre, ma façon de montrer qu'il était très différent, mais en même temps très proche. La littérature, c'est un rêve très différent de vrai, en même temps très proche de quelque chose qui vous emporte, mais qui vous ramène aussi à vous.
Comment s'impose un livre?
Je ne sais pas. Subitement, on veut parler de quelque chose. Mais pourquoi? On ne sait pas.
Il y a une dimension extrêmement réaliste à l'intérieur de votre œuvre littéraire, Marie Scondé. Et il y a des livres où vous dites « je ». vous, dans Tituba la sorcière ou dans d'autres livres, La traversée de la mangrove, combien de jeux, J.E., avez-vous dans votre tête?
Autant que vous, une infinité. Un être humain a une infinité de jeux en lui. Vous, moi et tous les êtres que nous connaissons qui vivent autour de nous. C'est Rimbaud. Je est un autre. Il y a beaucoup d'autres en nous. Beaucoup de gens, beaucoup de pulsions, beaucoup de tendances différentes. Et chacune a pu avoir le désir de s'exprimer, de parler, de se faire entendre.
Nous vivons une période d'assignation à des identités et votre œuvre littéraire, au contraire, résonne comme le refus de l'identité.
Je ne crois pas à l'identité collective. Par exemple, je pense que je suis guadeloupéen, mais à ma manière, à moi, marquise qu'on est. Et peut-être un autre guadeloupéen ne reconnaîtrait pas la guadeloupéanité en moi. Chacun vit et se définit selon ses goûts, ses choix, ses influences, et chacun est libre.
On va écouter un court extrait d'une chanson qui nous a, qui vous a aussi, Maryse Condé, puisque vous écrivez dessus, beaucoup marqué, et qui s'appelle « Haïti, Haïti chérie ».
Haïti chérie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel, where days long ago brave men served this country well. Where sun is bright, or even with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please. Work, laughter and play, yes, we'll always be this way.
Vous parlez de cette chanson, Haïti, Haïti chérie.
Ben, c'est le titre d'un livre pour enfants que j'ai fait. Après, on a débaptisé ce livre, on l'a appelé Rêve de la mer. Mais au départ, c'était Haïti chérie.
Haïti, Haïti chérie, parce que oui. C'est cette chanson très connue en Haïti, qui est comme une sorte de refrain chanté et connu par tout le monde. Mais ce livre est extraordinaire, d'abord par son humanité, par la grâce de son écriture et aussi par son sujet. Parce que ce livre pour enfants, vous l'avez écrit pour faire l'éloge de l'accueil, de l'hospitalité, de ce qu'on appelle les migrants.
Ouais.
Et ce livre se termine très mal. Alors que normalement, les livres pour enfants, il faut leur faire croire que la vie, elle est toujours belle. Mais non, pas vous, Maryse.
Ce livre, en fait, c'est l'histoire d'un fait divers. Il m'a été dicté par un fait divers. Donc, Bayard a voulu que je change la fin en disant, comme vous venez de dire, que pour des enfants, il faut trouver une manière plus douce et plus pleine d'espoir. Mais j'ai refusé. Les gens étaient morts dans la réalité. Il fallait que lui soit fidèle à cette mort, à cette fin brutale dans l'océan. Voilà pourquoi ce livre pour enfants a une fin très dure. Mais un enfant accepte n'importe quoi. Il accepte les contes de Perrault ou les belles-mères mettent leurs beaux enfants à bord on se trompe, qu'on croit que les enfants sont fragiles. Ils sont compris très forts. Et vous... c'est merveilleux.
Et vous, vous êtes forte?
Pas tellement. De moins en moins. Maintenant que je suis vieille, que je suis malade, de moins en moins. Sans mon mari qui me insufflait sa force, je crois que je serais encore plus faible.
Vous écrivez?
Oui. Pour le moment, je finis pour Serena, une de mes petites filles qui a 10 ans.
Votre vie de femme telle que vous la décrivez dans ce livre « La vie sans phare », parce qu'il faut dire que vous êtes d'une modestie stupéfiante, Maryse Condé, et ce depuis très longtemps. Vous n'avez pas une haute idée de vous-même, et vous l'écrivez, mais vous avez eu une vie de femme qui a été quand même, là aussi, très chaotique, très difficile. Vous racontez comment donc vous êtes retrouvée fille-mère très jeune, et puis ensuite, vous dites dans ce bouquin que vous avez été violée aussi.
Oui, mais... c'est un viol, un bien calme. C'est pas un vrai viol.
Mais c'est ça existe, les faux viols?
Oui, c'est un ami qui a profité de ma faiblesse pour m'imposer son désir. Donc, je lui en veux pas, je lui ai pardonné. On a beaucoup parlé tous les deux et je lui ai pardonné en fin de compte.
Et que pensez-vous de ce mouvement MeToo qui a commencé à exister et de la défense des femmes pour leur, pour leur respect, la dignité qu'on nous doit?
Oui, ça c'est différent. Le viol dont vous parlez et dont je parle est différent. Mais l'agression contre les femmes, je suis évidemment contre. Je crois que maintenant, il est temps qu'on respecte et qu'on honore les femmes. Le silence qui a été fait sur certains abus doit cesser, je crois.
Comment avez-vous appris que vous aviez le prix Nobel?
La présidente du jury est venue me l'annoncer 8 jours avant la proclamation. Donc, je savais.
Ça vous a étonné?
Un peu.
Pourquoi un peu?
Parce que les Français ne m'ont jamais donné un grand prix. Chaque année, année après année, je disais Goncourt, Féminin, et je n'étais jamais sélectionné. Donc, j'ai été étonné d'être retenu pour un Nobel alternatif. J'avais l'habitude d'être oublié.
Oublié, ben voilà, c'est le Nobel ou rien, ça sera le Nobel.
Et voilà.
Vous avez préparé un petit discours?
Oui, 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 oui.
Vous l'avez ici?
Oui, oui.
Vous voulez pas nous en lire un petit passage, là, en exclusivité pour nous?
Non. C'est un secret, je me garde pour Stockholm.
La première phrase, peut-être, pour terminer l'émission. La première phrase.
La première phrase. Le choix du prix de la Nouvelle Académie a bouleversé ma vie. C'est comme si un boucan gigantesque s'était allumé avec des flammes hautes et brûlantes et me réchauffer délicieusement. Voilà.
Eh bien, c'est extraordinaire, parce que pendant que Richard est allé chercher le papier que vous avez écrit pour le prix, la réception du prix, ben vous avez pas eu besoin du papier, parce que vous le connaissiez par cœur, mais il est dans votre tête.
Le problème, c'est que maintenant, je ne lis plus. Donc, je dois tout loger dans ma tête, dans ma cervelle. Donc,
tout est dans votre tête.
Tout est là, dans ma tête.
Vous avez dit au début de l'émission, Maryse Condé, que vous étiez malade, mais vous avez l'air en pleine forme. De quoi souffrez-vous?
Une maladie génétique héréditaire. On ne va pas s'attendre, Mais ça s'appelle un syndrome cérébelleux. Perte d'équilibre, perte d'élocution, perte de coordination des mouvements. Mais ne parlons pas de cela. Lors, voyons plutôt l'avenir.
Mais avec vous, c'est toujours le goût de l'avenir, Maryse.
Oui, je crois que je suis à la fois malheureuse et optimiste. Je pense que des belles choses arriveront demain. Le passé est le passé. On ne peut pas changer. Il est ce qu'il a été, très sombre, mais demain sera beau.
Eh bien voilà, cet entretien se termine et pendant ce temps-là, la lumière est en train de décroître et c'est vraiment l'heure bleue. Ouais. Regardez juste derrière vous, c'est magnifique ce ciel avec cette lumière bleue. Merci infiniment, Maryse Condé, d'avoir accepté cet entretien chez vous, dans le Sud. C'est un grand bonheur de vous lire et de vous relire et c'est un grand honneur pour nous que vous receviez ce prix Nobel alternatif aujourd'hui.
Merci Laure, je crois que tout le monde est content.
I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between.
La musique de Marianne Faithfull dans L'Heure Bleue de Maryse Condé en décembre 2018. Vous pouvez retrouver les entretiens avec Maryse Condé dans les émissions de France Inter en podcast et sur notre site internet.